Bonsoir et merci d'être présent alors que ces imaginales s'apprêtent à se terminer puisque j'aurai un dernier café littéraire tout à l'heure. Et donc cette table ronde, cette rencontre a pour but de répondre à quelques questions qui ont parfois pu nous être posées, surtout au début, de moins en moins. Pourquoi ce partenariat entre le Festival des mondes imaginaires d'Épinal, les imaginales, parvenues aujourd'hui à leur 14e édition, et puis une association, loin de 1901, les imaginales maçonniques et ésotériques, dont Jacques Borifis est aujourd'hui le président, fondateur. On aura aussi parmi nous à cette table ronde Gilbert Abergel, qui est ancien grand maître du Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique de France que, je crois, la plupart d'entre nous connaissons, au moins en tout cas de réputation. Et puis Lionel Davoust, qui, sauf s'il ne m'en avait pas informé, n'est pas maçon, qui est un des meilleurs écrivains de l'imaginaire français d'aujourd'hui, qui a été récompensé par déjà un premier prix imaginal de la nouvelle, qui est un habitué, à la fois comme écrivain et comme traducteur de l'anglais. Il était le traducteur de Robin Hobb et de Christopher Priest, excusez du peu. Et justement, il est présent ce soir parmi nous, parce qu'il a participé pour la première fois à une réunion, à un échange au Temple avec un auteur ou une auteure, en l'occurrence, maçon. Et j'ai trouvé intéressant, justement, d'avoir parmi nous, j'en fais d'ailleurs partie, un profane et deux maçons. Et je trouvais que c'était une façon d'échanger, de réfléchir ensemble, et puis peut-être à la fin de répondre à quelques questions. Donc pour commencer, la première chose que je voudrais vous demander, Jacques Borifis, qu'est-ce qui vous a donné cette idée que personne n'avait eue avant dans un festival, en particulier d'imaginaire français, de créer ces imaginales maçonniques et ésotériques et de proposer à la ville d'Épinal et à son festival un partenariat? Quels sont vos objectifs?
Alors, si vous voulez, il faut revenir sur une histoire un peu ancienne, c'est que les loges maçonniques ont une longue tradition qui remonte au XVIIIe siècle. Et il se trouve qu'à Épinal, il y a une loge maçonnique qui s'appelle la Fraternité Vosgienne, qui est l'héritière de ces loges-là et qui a été fondée en 1862. Alors, vous savez, depuis 200 ans environ, il est habituel de célébrer les anniversaires. Et puis, les loges n'échappent pas à la tradition, on fête les anniversaires, pour se rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Puis là, c'est le 150e anniversaire. Alors, il se trouve qu'après avoir été le plus jeune maçon de ma loge, je commence à être le plus ancien, et que j'en avais ras-le-bol, comme diraient les jeunes, de la traditionnelle 100e, 120e, 125e, 130e, 140e, etc., avec la venue du grand maître, avec l'historique de la loge, et le plus vieux frère qui faisait... Bon, franchement, ça m'avait beaucoup fatigué. Alors, ça s'est passé de la façon suivante. Il y avait une réunion où ils avaient tous dit... ils avaient réglé les problèmes, je suis arrivé un petit peu en retard, il paraît que j'ai l'habitude d'être très en retard, donc j'arrive un peu en retard, et il me dit c'est fini, c'est bouclé, t'arrives, tout est fini. Il dit non, tout n'est pas fini, on va faire autre chose que ce qu'on a fait, on a développé le concept du 150e anniversaire. Alors pour faire le 150e anniversaire tel qu'on l'a fait à Épinal, on a en fait, entre guillemets, occupé la ville pendant quelques semaines, avec des expositions à la BMI, des expositions dans la galerie administrative de la ville, avec un certain nombre de colloques, c'était à l'automne 2012. À l'automne 2012, donc pour faire tout ça, vous imaginez bien qu'il fallait avoir des autorisations, entre guillemets, municipales. Donc j'en parle... Mon frère me dit, vous savez, tu sais, le maire de la ville, M. Heinrich, il n'est pas tellement pro-maçon, il faut faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. Bon, j'ai pris rendez-vous avec le maire, mais j'ai eu l'impression qu'il n'attendait que nous, en fait. Donc, je l'ai vu avec le vénérable de la loge, qui était le président de l'association, et puis on a monté les imaginales, le 150e anniversaire, qui s'est déroulé d'une manière absolument merveilleuse. Toute la loge était mobilisée, on avait fait un bouquin, enfin, c'était vraiment fantastique. On a fait 3 colloques... On a fait venir l'ancien grand maître, le futur grand maître, on a fait un colloque sur l'antimaçonnisme, on a fait un colloque sur la bande dessinée, on a fait... on s'est amusé vraiment et on a intéressé un certain nombre de personnes. Et donc la soirée de clôture, Elisabeth Delgenini, ici présente, merci d'être là, était là, M. Heinrich était là, donc je disais à M. Heinrich, on va... on est capable d'occuper le terrain encore pour 10 ans avec tout le matériau qu'on avait, parce qu'on a eu le soutien indéfectible de monsieur Alain-Jacques Lacot des éditions Derby et autres lieux, et nous avons pu avoir des projets sur l'avenir. Et puis je lui dis, écoutez, ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose là, répéter tous les ans quelque chose au mois d'octobre-novembre. Et puis il me dit, mais pourquoi, avec tout ce que j'ai compris et entendu de la maçonnerie, pourquoi ne joindriez-vous pas les imaginales? J'ai dit, écoutez, monsieur le maire, qu'à cela ne tienne. Alors je vous rappelle qu'on était au mois de novembre quand même, qu'on était au mois de novembre, et que les imaginales, ça se fait au mois de mai. Et donc on sortait déjà de quelques semaines de préparation du 150e anniversaire, et donc on a mobilisé la loge, et puis on a fait les imaginales, les premières imaginales, et alors ça a été fantastique, parce que avec toute notre inexpérience, avec tout le soutien des uns et des autres, nos compétences, bien sûr limitées, on a réussi à faire venir 600 personnes dans le temple. Voilà, l'année dernière c'était 800 personnes, cette année on a dépassé les 1000, donc on a décerné le prix Cadet-Roussel, etc.
Justement, Lionel Davoust, c'est la troisième donc collaboration entre les imaginales et les imaginales maçonniques et ésotériques, et justement la loge, et on était évidemment tout à fait enthousiastes, a souhaité aller plus loin dans notre échange. C'est-à-dire ne pas simplement se limiter, comme les deux premières années, des initiatives ont lieu au temple maçonnique, et puis d'autres ont lieu sur les lieux du festival, dans les jardins du cours. Et puis, en quelque sorte, quelques maçons viennent, parce qu'ils sont évidemment des auteurs d'imaginaire, nous apporter aussi leur éclairage, mais comme d'autres invités. Cette fois-ci, on a fait aussi le retour dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour la première fois, trois auteurs, si je me souviens bien, Charlotte Bousquet, Jean-Philippe Jaworski, troisième, et
Jean-Michel
Truand, qui en train de parler en ce moment. Voilà, et Lionel Davoust, donc quatre en fait. Quatre auteurs, on vous avait proposé un certain nombre, vous avez regardé, évidemment, j'ai trouvé que vous l'avez regardé avec beaucoup de pertinence, je vous en félicite, vous avez regardé quelles étaient les thématiques des auteurs qui collaient avec vos thématiques et dont vous pensiez qu'ils pouvaient vous apporter un éclairage, et vous avez invité donc quatre de nos auteurs au temple. Et je pense que ça a modifié, y compris, la façon dont une partie du public a pu se dire, ben, maintenant, puisque tous les auteurs invités aux Imaginales vont au temple aussi, en tout cas un certain nombre d'entre eux, eh bien la collaboration, elle est définitivement construite et que les choses aujourd'hui sont évidentes. Lionel Davoust, est-ce que c'est comme ça que vous avez vécu les choses ?
Complètement. C'était déjà un grand honneur et très impressionnant pour moi d'aller... parler devant cette assemblée et dans ces conditions. Alors, il y avait également, bien sûr, aussi des visiteurs du festival. Effectivement, c'était un véritable échange, puisque la façon dont ça se passe, c'est que donc Laurence Vanin, qui était avec moi, chacun, nous avons parlé 20 minutes à peu près sur notre thématique, suivi ensuite de questions extrêmement pertinentes ou même de commentaires de la part de l'assistance. Et c'est un véritable échange. Grande pertinence dans le dialogue. C'est, je dois avouer vraiment, hein, très impressionnant pour un auteur de SF. Moi, je me vois plutôt comme je suis un raconteur d'histoire. J'ai pas vocation encyclopédique dans mon travail. Je suis avant tout là pour raconter des histoires. Mais bon, c'est des sujets qui m'intéressent, l'ésotérisme, etc. Donc, je convoque ces symboles-là dans mon travail aussi. Et c'était en plus très enrichissant pour moi de pouvoir simplement de réfléchir d'une façon un peu plus académique à ce que je fais. Donc c'était une expérience grand honneur et très enrichissante.
Gilbert Avergel, vous avez donc été grand maître du Grand Orient de France. Est-ce que quelque part l'initiative de la loge d'Épinal vous a surpris, et quel bilan vous commencez à en tirer?
Mais d'abord, moi, c'est la première fois donc que je participe à ces imaginales. Et je dois dire que cette continuité entre la démarche maçonnique et la démarche du Festival des Imaginales m'est apparue tout à fait naturelle. Parce que vous disiez, monsieur, que vous étiez un raconteur d'histoire, mais nous aussi, on se raconte des histoires. Et il faut dire que quand on rentre en franc-maçonnerie, on ne rentre pas dans un parti politique, on ne rentre pas dans une association. Ces deux engagements sont tout à fait nobles et respectables. On rentre dans un mouvement qui laisse une large part à l'imaginaire. Et ceux d'entre vous qui ont pu assister ce matin à la conférence qui a été donnée donc par Daniel Keller et Céline Brion-Porté l'ont bien compris. Il y a dans l'engagement maçonnique toute une part de rêverie. Il y a une liberté que l'on s'accorde par rapport à toutes les visions du monde et qui font qu'il y a des cousinages absolument évidents entre cette ambiance, cette poésie qui règne au sein de ce festival et la manière dont les francs-maçons essayent, au travers de leur mythe, de leur rituel, de concrétiser en quelque sorte leur objectif qui est cette fameuse utopie d'une humanité meilleure et plus éclairée. Et je trouve que les imaginales maçonniques ont toute leur place au sein de cette manifestation spinalienne.
Ce qui me paraît intéressant, c'est de constater que la première année, 600 personnes, 800 la deuxième, plus d'un millier cette fois-ci, nous aussi on a un public qui n'est pas spécialement majoritairement maçon, qui assiste à ces débats où vous êtes présents, ou voire même certains de vos membres font des conférences. Et on voit par exemple Laurence Vanin qui s'est déjà imposée comme une remarquable conférencière. Donc ça veut dire qu'elle se gagne, y compris son propre public, au-delà de ses frères et sœurs. Et je trouve ça extrêmement intéressant de le remarquer. Et une question néanmoins que je voulais poser, parce qu'aujourd'hui je crois que cette question ne se pose plus vraiment, mais la première année, elle fait quelques remous. Et j'ai découvert, parce que je pensais que c'était pas cette saison, j'ai découvert qu'il existait toujours un anti-maçonnisme imprégné de théories du complot, y compris de quelques amis que je croyais porter au progressisme, et dont j'ai entendu des réactions qui me donnaient, Lionel en avait parlé, l'impression de voir des théories remontant à quelques dizaines d'années qu'on ne développera pas ici.
Mais il est encore à l'œuvre, cet anti-maçonnisme. Lorsque, par exemple, le Grand Orient de France a pris position lors des manifestations sur le mariage pour tous, nous avons retrouvé en bas de nos immeubles des tags que l'on croyait oublier. Certains temples de nos temples de province, alors c'est plus compliqué à défendre. Un temple de province, parfois il est visible, parfois il ne l'est pas. Et quand il ne l'est pas et qu'on découvre qu'il y a là des francs-maçons qui se réunissent, eh bien, ça ressurgit. Et je crois que c'est fondamentalement, ce sont les plus mauvaises pulsions qui, lors de crises importantes ou de débats de société qui mobilisent la culture, les croyances de chacun, eh bien, ça ressurgit. Mais c'est en même temps structurant pour nous. C'est-à-dire que tant que la République a des ennemis, c'est qu'elle se porte bien et qu'elle a encore du travail à faire.
Pour poursuivre et terminer sur ce point, et peut-être le clore, je pense que ce débat ne reviendra plus dans les années à venir. Là aussi, mon étonnement, c'est de constater que les critiques disaient en gros traditionnel, maçonnerie, c'est quand même inquiétant tout ça, parce que c'est très mystérieux. Et là, avec les imaginales maçonniques ésotériques, vous êtes en pleine lumière, vous allez en direction des autres, vous invitez dans votre propre temple tout le monde. Et là, on nous dit, oulala, c'est qu'il y a une mainmise et un complot. Et alors, à un moment donné, c'est, voilà, on est toujours dans ce balancement un peu incohérent, parce que c'est l'un ou c'est l'autre.
Bien sûr, mais c'est sans fin, vous savez, c'est sans fin. Et encore une fois, je crois que c'est consubstantiel à l'existence de la maçonnerie. Tant que la maçonnerie prétendra incarner une démarche initiatique, c'est-à-dire, comme je vous le disais, ce n'est pas qu'une adhésion à un parti, à un mouvement politique. Tant qu'elle aura cette composante imaginaire, composante indicible qui concerne la démarche de chaque individu, ça reste mystérieux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du transcendant qui peut exister en dehors des églises constituées. Et ça, ça inquiète et ça inquiétera toujours. Mais peu importe.
Lionel Davoust, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit ?
Non, ça me fait réfléchir un peu à des questions qu'on m'a fréquemment posées avec la sortie de la trilogie Léviathan, ou qui est une trilogie initiatique. Et effectivement, ça suscite, j'étais très surpris, ça suscite cette espèce de méfiance où c'est tout de suite étiqueté comme étrange. Si on revient à la racine du mot ésotérisme, tout simplement, c'est la connaissance qui est cachée, non pas parce qu'il ne faut pas la connaître, mais parce qu'elle nécessite une certaine préparation pour y arriver. C'était l'enseignement des philosophes grecs, il y avait l'enseignement exotérique, extérieur, qui était dispensé sur la place publique, et ésotérique était dispensé à l'intérieur. Mais tout ce qui nécessite une certaine réflexion pour y atteindre, une certaine progression, est initiatique. La mécanique quantique, par exemple, c'est pas vraiment un sujet que vous pouvez ouvrir en vous endormant le soir, sauf si vous avez des insomnies et que vous voulez vous endormir rapidement, et que vous pouvez aborder comme ça. C'est un sujet qu'on peut qualifier d'ésotérique simplement parce qu'il y a une progression à faire.
Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, je l'ai vu tout à l'heure et j'ai regardé ce livre donc du grand maître actuel et de Céline Brion-Porté, L'utopie maçonnique, et j'avais regardé déjà pour commencer la table des matières tout bêtement, et il y a quelque chose qui m'a Je me suis dit, ils ne l'ont pas fait exprès pour nous, donc ça doit être vrai. J'ai trouvé quelques formules qui vont dire des choses aux amateurs d'imaginaire. C'est au début, dans la première partie, l'imaginaire actif de la construction utopienne. Et là, je dis, c'est des termes qui résonnent avec... Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus précisément ce qu'on peut dire par là quand on est maçon ?
Je reviens encore une fois à la démarche de celui que nous appelons le profane, qui veut rentrer en maçonnerie. Nous avons les plus grands rationalistes et raisonnables et incroyants qui soient qui font quand même cette démarche. Et ça veut dire qu'ils veulent donner libre cours justement à cette partie d'eux-mêmes qui les fait rêver, qui les fait rêver à un avenir meilleur dont ils savent parfaitement qu'ils ne pourront pas y parvenir tout seuls, mais qu'ils ont besoin de s'intégrer dans un mouvement collectif, partager ses désirs avec d'autres. Donc, mon imaginaire n'est pas forcément que le mien, et je peux le partager avec d'autres. Et ça peut être dans cette perspective... Hier, j'employais le concept de fantasme organisateur. Vous savez, ce derrière quoi nous nous retrouvons tous, nous ne le disons pas, mais ça nous soude. Pourquoi ? Parce que cette utopie à laquelle nous voulons accéder, nous y croyons. C'est structurant pour le groupe. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie ne traverse les siècles que parce qu'elle conserve justement ce fantasme. Elle conserve cette idée qu'il est possible d'agir sur le monde, il est possible de le changer, il est possible de promouvoir la meilleure part de nous-mêmes. On laisse la plus mauvaise pour les psychanalystes.
Jacques Orefis, qu'est-ce que ça vous a apporté de vous lier comme partenaire ? Parce que vous n'êtes pas les seuls, nous avons des éditeurs qui sont quand même nos premiers partenaires. Nous avons eu des enseignants qui sont venus vers nous, nous proposer le prix régional des lycéens. Vous savez qu'aujourd'hui on en est, prix régional des collégiens, prix régional des écoliers, un autre projet, mais on en parlera l'année prochaine. Donc des gens nous amènent des projets. C'est aussi ça la magie des imaginales, ça a commencé par d'autres, et vous arrivez, vous nous proposez un projet. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette démarche ? Quel est votre objectif ? Qu'est-ce que vous espérez concrètement, Jacques Orefis ?
Alors, si vous voulez, je suis d'abord un passeur, et ce que je recherchais, c'est le lien. Parce que qu'est-ce que la maçonnerie en définitive ? La maçonnerie, c'est ce qui fait le lien entre un monde sensible et un monde intelligible. C'est la définition même du terme d'imaginal. On nous l'a rappelé à deux reprises, cette fois-ci chez nous, dans le temple maçonnique, que imaginal était un concept défini par Henri Corbin, et c'était ce qu'il y avait entre l'intelligible et le sensible. Donc l'intelligible, c'est la raison, le sensible, c'est l'imaginaire, l'imaginal, c'est ce qui fait le lien entre les deux. Or, la maçonnerie, en tout cas la maçonnerie du Grand Orient de France, c'est une maçonnerie qui fait appel, comme le rappelait Gilbert tout à l'heure, à l'imaginaire, complètement à l'imaginaire. On est en plein dedans. Je veux dire que toute la mythologie, la maçonnerie, c'est un syncrétisme de tout l'imaginaire occidental. Des Grecs aux Templiers, de la Kabbale juive à l'Égypte. Enfin, c'est vraiment le syncrétisme de toute la tradition occidentale. Et on est en plein dedans. Et puis les maçons réfléchissent. C'est-à-dire qu'ils mettent en marche, dans un même moment, leur cerveau droit et leur cerveau gauche. Et puis, entre les deux, il y a un pont entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et j'essaye de faire fonctionner ce pont. Et les imaginales m'ont permis, les imaginales d'Épinal, avec les imaginales maçonniques et ésotériques, m'ont permis de créer le lien entre un monde maçonnique fermé, parfois replié sur lui-même, et un monde profane, ignorant, de ce qu'était le fait maçonnique. Et ça nous permet de faire connaître le fait maçonnique aux profanes et aussi aux maçons de connaître le profane.
Là aussi, pour nous, c'est assez évident, les imaginales. D'abord, vous nous avez apporté des talents. C'est évidemment ce qu'on recherche quand on invite des écrivains, quand on travaille avec des éditeurs, c'est d'amener des talents pour les faire découvrir au public. Vous amenez le conférencier de talent, je pense aussi à un homme important dans la bande dessinée que j'ai rencontré hier, Didier Convard, avec l'exposition que je vous incite à aller voir. C'est un temps cortant, je crains malheureusement que ça soit un peu... C'est demain que c'est fini, je crois. Mais Didier Convard nous a offert quand même une vue sur son œuvre de bande dessinée. Quand on a la présence de Jacques Ravenne aussi, qui est venu à deux reprises quand même pour nous rencontrer et nous apporter là aussi, à la fois au temple et ici, ses compétences, son public, sa reconnaissance. Nous, on voit bien l'intérêt qu'on a C'est à la fois ce que vous venez de dire sur cet échange autour de l'imaginaire et puis aussi des talents. Parce que finalement, on ne retourne pas sur le thème du complot, ces gens-là organisent beaucoup de gens, beaucoup de talents, ils ont des réseaux. Est-ce que ce ne sont pas simplement les réseaux de la culture et de l'intelligence ?
Enfin, nous sommes nombreux à penser que le mouvement maçonnique, avant tout, est un mouvement culturel. Et que la meilleure extériorisation qui soit passe par le biais culturel. Vous savez, la franc-maçonnerie n'est pas une machine à fabriquer des talents. Elle prétend simplement leur offrir un terrain au sein duquel ils peuvent s'exprimer et mettre ce talent au service d'un objectif partagé. C'est pas un secret, hein, donc il n'y a pas de complot, il n'y a pas les talents qui nous rejoignent préexistaient avant leur entrée en maçonnerie. Nous nous flattons de pouvoir les réunir ensemble et de pouvoir les faire travailler ensemble et de croiser en quelque sorte les objectifs de notre institution, de notre histoire, de notre mouvement avec le pouvoir qu'ils ont d'agir justement sur le temps.
En quoi les thèmes de la maçonnerie qu'on commence à évoquer, que le public, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, commence à discerner, en quoi ça intéresse un écrivain qui, comme il l'a dit tout à l'heure, fait référence à l'ésotérisme et au mystère ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est la question classique, presque cliché, à laquelle on résume fréquemment la littérature de l'imaginaire, c'est se poser une question qui commence par « et si ?» Et si le monde fonctionne de telle et telle manière. Robert Charles Wilson, qui était venu aux Imaginales il y a quelques années, avait disserté de ça, et il avait poussé la question encore plus loin, qui me semble d'une façon intéressante. Il disait, on a fréquemment souvent on pense en fantaisie, en science-fiction, on se pose une hypothèse en se disant, et si le monde fonctionnait de telle manière, par exemple. Il dit, c'est pas tellement ça la question qui est intéressante, c'est, si le monde fonctionnait de telle manière, qu'est-ce que cela apprendrait sur l'humain, quelles conséquences cela entraînerait sur lui. On dit fréquemment que littérature de l'imaginaire sont une expérience de pensée. Je pense que c'est un peu une explication intellectuelle. Je pense qu'on est avant tout là pour raconter une histoire, mais ça n'empêche pas que science-fiction et fantasy, fantastique aussi, en faisant cette espèce de pas de côté par rapport à la réalité telle qu'on la considère, nous projette dans des ailleurs où l'on peut éventuellement susciter des réflexions. Je n'irai pas à apporter des réponses, parce que la littérature a, bon sens, avant tout pour rôle de poser des questions. Concernant une deuxième chose, c'est concernant, pour moi, l'ésotérisme, dans le sens le plus large, quand on prend son lien avec la tradition, par exemple, a toujours été le prolongement naturel, en particulier de la fantaisie. On le voit dans la littérature de fantaisie, et on a fréquemment une convocation des traditions, des figures anciennes, une espèce de jeu, une réécriture comme ça, qui forment une grande partie du terreau de cet imaginaire-là. Donc, on est, à mon sens, dans des modes de pensée qui sont connexes. Le jeu sur des figures qui sont parfois anciennes et une réflexion, une expérience de pensée pour ensuite, éventuellement, peut-être, c'est à mon avis là où les littératures de l'imaginaire sont les meilleures, c'est quand non seulement on leur raconte une bonne histoire, nous font voyager, mais qu'en plus, on referme le livre en regardant peut-être des questions et un regard différent sur le monde.
J'ai pas pu assister donc à ces entretiens, parce que j'étais moi-même en modération, et justement j'aimerais votre éclairage, Lionel Davoust. En quoi votre rencontre au Temple est-elle différente des rencontres qu'on organise ici ?
Déjà parce que le lieu est beaucoup plus solennel, déjà. Personnellement, c'était la première fois que je rentrais dans un temple maçonnique. Alors, j'ai vague vernis de culture en symbologie, donc j'ai pu les remarquer là où ils étaient. Le décor est infiniment plus solennel donc que ce que l'on a. Et contrairement au débat classique où l'on a un modérateur qui nous invite, qui nous pose des questions, là on est livré à se livrer soi-même en fait quelque part, ce qui est quelque chose d'impressionnant, en particulier quand on écrit des livres et où on a quand même, en tout cas c'est un peu mon cas, tendance plutôt à s'effacer derrière les livres et à dire bon, lisez les bouquins, moi je suis là pour essayer de vous raconter des histoires, peut-être ouvrir des portes et poser des questions, mais finalement, pourquoi je fais ça et la démarche et ce que je fais derrière, c'est pas très intéressant, une espèce d'humilité peut-être mal placée d'ailleurs. Donc du coup, le fait de venir et de parler pendant 20 minutes, moi j'étais donc sur le thème du Léviathan et ce que j'avais choisi de faire, c'était pourquoi utiliser la figure du Léviathan, pardon, ce dont j'avais choisi de parler les dimanches soirs, je suis un peu fatigué, ce dont j'ai choisi de parler, c'était pourquoi utiliser le Léviathan et pourquoi utiliser le Léviathan dans un roman qui est finalement un thriller initiatique. Et qu'est-ce que j'essaye de faire avec ça à travers la fiction. Donc ce qui est impressionnant et ce qui pousse également du coup à structurer pas mal la réflexion et l'approche de l'écriture, ce qu'on ne fait peut-être pas forcément, puisque quand on écrit, on est à la fois évidemment dans une démarche qui est consciente, mais il y a beaucoup de choses qui évidemment relèvent de l'inconscient et de la découverte au fil de la construction d'une histoire.
Jacques Orefice, je voyais réagir en écoutant Lionel Daous.
Oui, je réagis fortement parce qu'il a parfaitement bien perçu un des éléments de la méthode maçonnique. Mais je voudrais revenir un petit peu sur le pourquoi du choix de Lionel Daous et du thème du Léviathan. Lionel Daous a donc écrit une trilogie en utilisant le Léviathan dans un roman policier de fantasy. Je me résume, c'est bien ça. Et puis, j'ai Laurence Vanin, qui a son public, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, qui a son public à Épinal, et qui produit cette année un bouquin sur Hobbes et le Léviathan. Mais Laurence Vanin est une philosophe pure et dure, malgré sa façon très dynamique de présenter les choses. Elle est donc dans le monde intelligible, c'est-à-dire qu'elle structure un raisonnement à partir du Léviathan, mais elle vous le vend en tête de gondole, c'est-à-dire qu'elle elle présente les choses d'une manière accessible à un grand public et elle le rend intelligible. Lionel Daous, c'est tout à fait différent. Lionel Daous, il va utiliser l'autre monde, il va utiliser le monde sensible, et il va faire appel à ce qu'est votre sensibilité, votre imaginaire, j'allais dire un imaginaire pur et dur. Mais en fait, la dure, c'est Laurence. Le mou, c'est vous. Excusez-moi. Le mou, c'est vous. Et quand j'ai vu ce que vous faisiez, ce que Laurence faisait, je me suis dit, on va avoir une confrontation absolument fantastique sur le Léviathan. Puis en plus, le Léviathan, la quasi-totalité des gens ne savent pas ce que c'est. Donc, ils s'imaginent un espèce de monstre, machin, truc, là, qui va les dévorer, le dragon. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'un dragon quand on a des terreurs enfantines? On a du mal à dormir, on a des cauchemars, on se cache sous le lit. Et quand on est adulte, on fait aussi ses petits remparts autour de soi. Donc, le Léviathan, le monstre était là. Vous étiez là, puisque vous avez démontré le monstre sous l'angle sensible. Laurence était là, elle l'a démontré sous l'angle intelligible. Et tous ceux qui sont sortis de là, c'est dommage que vous ne soyez pas venus, ceux qui n'étaient pas là. Parce que c'était fantastique. Fantaisie.
Gilbert Avergel, pour prendre d'autres auteurs, vous avez peut-être assisté à d'autres rencontres du même style. Comment vous voyez les choses, comme Jacques Orefice, avec ou un regard qui est peut-être de quelqu'un qui n'est pas dans la loge à Épinal?
Je trouve que l'initiative qui a été prise est exemplaire. Justement, pour revenir sur ce que vous disiez à propos du fameux complot, des intrigants, je pense que la meilleure façon de présenter la maçonnerie, c'est justement de la présenter au travers de la mise en lumière de ses préoccupations. C'est un mouvement culturel, c'est un mouvement qui doit se montrer, qui doit se préoccuper, sans pour autant donner dans l'étalage. Hein. On n'est pas là-dedans dans cette espèce d'exposition médiatique qui ferait rentrer les caméras dans les temples, ça n'a aucun sens. Mais donner à voir juste assez pour donner envie, démolir tous les fantasmes et pour que justement la franc-maçonnerie prenne sa place, sa juste place. Sans pour autant, encore j'y insiste, hein, se hasarder dans cette exposition médiatique qui n'a aucun sens, parce qu'au bout du compte, la démarche maçonnique, enfin celui qui veut rentrer en maçonnerie, reste confronté à une problématique tout à fait personnelle, et sans ça, on deviendrait un mouvement associatif comme les autres.
Hein. Donner à voir, mais sans excès, je dirais que c'est presque la technique du cliffhanger, c'est dans les séries télévisées où ensuite on rebondit et les gens ont envie de savoir.
Mais oui, bien sûr, mais il y a un moment, si vous voulez, il faut payer pour savoir. Et vous payez par l'expression de votre désir. La démarche initiatique est une démarche de travail. C'est une démarche de travail sur soi, d'abord, sur son environnement, puisque Daniel Keller a insisté ce matin, au moins en ce qui concerne le Grand Orient de France, nulle démarche personnelle ne vaut si elle ne débouche sur une démarche pour la société, hein, pour justement le grand projet humaniste. Donc, on ne vient pas pour faire trois petits tours et s'en aller. Là, ça peut paraître rétrograde aujourd'hui, où finalement tout doit être facile et tout doit être accessible à tous. Non. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait les meilleurs maçons et les meilleures maçonnes.
Est-ce que j'irai trop loin en parlant d'élitisme républicain ?
Non, vous n'allez pas trop loin, mais ce n'est pas un gros mot, hein, l'élitisme républicain. Pas un gros mot, il y a effectivement des moments, et surtout dans notre société, on va dire contemporaine, où l'accès au savoir sur soi, l'accès à la connaissance... trouver sa bonne place dans la société passe justement par ce travail que l'on doit faire pour ne pas avoir l'impression, pour reprendre une expression qu'on trouve dans les tontons flingueurs, d'avoir au bout de 20 minutes été décrété l'homme du 20e siècle. Hein. Ce n'est pas parce que vous regardez tous les soirs le 20h que vous savez tout sur tout, alors qu'on veut vous en donner l'illusion. Non, c'est autre chose. L'accès à la connaissance, c'est autre chose. Ce n'est pas se satisfaire du gratuit qu'on vous diffuse tous les matins et dont on, voilà, qui vous abreuve de nouvelles artificielles éphémères.
Gilbert Vergel, à l'instant, parlait de travail Lionel. Est-ce qu'il y a aussi un rapport avec le travail de l'écrivain pour aboutir à un récit construit ?
Oui, effectivement, je pense qu'il y a un parallèle très net. C'est, alors justement, aussi ce que vous m'évoquez, c'est l'un des piliers de l'ésotérisme, c'est se taire. Et c'est se taire pourquoi ? C'est pas parce que il y a un grand secret qui est hyper dangereux, c'est parce que c'est le chemin. Moi, c'est une chose qui m'intéresse aussi, c'est le chemin qui va qui va être riche d'enseignement. Et c'est toutes les philosophies initiatiques mettent en avant le fait que la connaissance n'est pas tellement le but qu'on a au bout du chemin, mais le chemin qu'on va faire, est-ce qu'on va apprendre sur soi en faisant ce trajet. L'écriture peut-être est un peu un parallèle à ça. Je sais que je pense que on entend parfois en analyse littéraire le fait que en étudiant le discours d'un auteur dans la fiction, on va cerner sa personnalité. Je pense que c'est totalement faux et qu'on arrive à des conclusions complètement délirantes en faisant ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les questions que l'auteur va se poser, parce que les questions qu'il se pose vont éclairer son rapport au monde. Après, les réponses sont apportées par les personnages et par l'histoire, ce qui est une autre chose. Mais, ceci dit, dans l'écriture, je sais que la trilogie Léviathan, qui m'a occupé pendant au moins 2 ans à temps plein, sans parler de la réflexion qu'il y avait avant, en même temps, mais j'entendais Robin Hobb dire la même chose, hein, quand on écrit un livre, surtout une série au long cours comme celle-là, on façonne l'écriture. Mais l'écriture, il va en émerger des réponses, des enseignements, y compris sur soi, sur sa ténacité peut-être, et le livre va vous façonner en retour. Et ce qui est assez drôle, c'est que de temps en temps, quand je prends certains des bouquins en feuilletant pour me rappeler un passage ou un autre pour faire éventuellement d'autres récits plus tard, je tombe sur des passages où j'ai l'impression, je découvre que mes personnages avaient compris dans l'existence des trucs que moi j'ai mis peut-être un an à comprendre plus tard consciemment.
Jacques Orifice, je vous ai proposé un certain nombre d'auteurs dont je pensais que ça pouvait vous intéresser par rapport à vos thèmes, mais vous avez fait vos choix, votre sélection, et vous avez constitué des couples d'auteurs sur des thématiques, et j'ai été un peu surprise quand j'ai vu le résultat, tout simplement parce que je me suis dit, ils n'ont peut-être quand même pas eu le temps de lire leur roman, et pourtant c'est à chaque fois pertinent. Pas pour vous flatter, comment vous avez travaillé concrètement pour constituer ces binômes et ces sujets de réflexion entre un maçon et un profane, ou peut-être aussi un deuxième maçon, mais je ne le sais pas nécessairement.
Non, objectivement, on a vraiment fait des binômes maçons et non-maçons. Simplement, j'ai une connaissance particulière des auteurs maçons. Et puis, il est vrai que je n'ai pas lu tous les livres. Par contre, je me promets de lire le Léviathan. Et une fois que le fondement de la thématique est fait, c'était extrêmement facile. J'avais les auteurs, les intervenants maçons, et puis les auteurs des imaginales que vous nous aviez proposés. Et par exemple, cet après-midi, Charlotte Bousquet et Frédéric Vincent broutant sur les utopies, ça allait très très bien. Et je pense qu'ils se sont amusés comme des fous. Eux à le faire, comme vous vous êtes amusés hier matin aussi. Hein, et puis en ce moment, Jean-Michel Truong et Didier Dessort ont fait un truc fantastique. Donc aujourd'hui, la thématique qu'on avait choisie, qui était les utopies à partir de l'utopie maçonnique de Daniel Keller, ça marchait très très bien. Il y avait une complémentarité fantastique.
Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot avant que je donne quand même la parole? Il y a peut-être quelques questions dans la salle. Est-ce qu'on a fait déjà un premier tour et on lance les questions? Est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose? Eh bien, la parole à la salle. Première question. En fait, il faudrait, voilà, si c'est possible, donner le micro. Baladeur. Merci beaucoup.
Ça ne sera pas exactement une question, ça sera plutôt une précision. Pourquoi les imaginales maçonniques? Je vais essayer de le dire le plus simplement possible, puisque je participe. J'ai le plaisir de participer à cette organisation depuis sa création par Jacques Orifice. Ce que tout le monde ignore, c'est qu'au XVIIIe siècle, il a fallu un siècle pour que des auteurs, des dizaines de Lionel Davoust, élaborent les rituels maçonniques. Il y a une démarche initiatique qui est ponctuée par des étapes, et à chaque étape, pour faire passer le message qu'il y a à faire passer, les francs-maçons du XVIIIe siècle ont fait appel à des Lionel Davoust et ont demandé à ces écrivains de fiction d'écrire une légende. Donc le parcours initiatique est ponctué de légendes. La franc-maçonnerie a oublié les noms de ses auteurs parce que c'était des auteurs anonymes, et le parcours maçonnique est donc comme ça ponctué. En gros, le corpus maçonnique, c'est une vingtaine de légendes complètement fictives, c'est des légendes, et ces légendes servent à l'adepte. Alors on n'écrit plus des légendes maçonniques, mais ça fait près de 3 siècles que les francs-maçons interprètent ces légendes. Alors, sans trahir de secret, il y a une légende qui est très connue. C'est une des plus connues des légendes. À un certain grade, au grade de maître, on lui raconte la légende de Maître Hiram, qui est le fondateur du temple, etc. Et on lui le fait même vivre à l'adepte. Alors, cette légende, la légende de Maître Hiram, elle a été écrite dans plein de versions. La plus belle version, d'ailleurs, est un sommet de la littérature. Elle est dans Le Voyage en Orient de Gérard de Nerval. Bon. Mais l'ensemble, c'est 20 légendes. Complètement imaginaires. Voilà le pourquoi des imaginales maçonniques. Parce que les auteurs de fiction et la maçonnerie, elles utilisent la fiction pour faire passer quelques messages. Et elle le fait de la même façon que les auteurs de fiction.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions dans la salle? Ou peut-être une réaction à ce que vient de dire?
Oui, Alain Jacques Lacot a parfaitement raison. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que l'ouverture des imaginales, puisque on voulait exposer quel était le partenariat, il faut bien comprendre que dans les imaginales maçonniques, on peut entrer dans le temple, qui n'a absolument aucune fonctionnalité maçonnique proprement dite. On vous montre quelle est la méthode symbolique que vous avez soulignée, c'est-à-dire que vous exposez, les autres prennent la parole, personne n'est interrompu, vous pouvez vous réexprimer après, et puis le débat est clos. Il n'y a pas de débat interpersonnel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une conversation comme on peut la faire dans un café du commerce. Ça se passe de cette manière-là. Et puis surtout, jamais la maçonnerie n'ouvrira ses travaux rituels, c'est-à-dire là où on fait réellement de la maçonnerie. C'est-à-dire que les rituels qu'a rappelé Alain Jacques Lacot, elles sont réservées aux initiés. parce que dans le livre c'est expliqué, dans d'autres ouvrages c'est expliqué aussi, et même sur Internet c'est expliqué, l'initiation c'est un processus long qui n'est jamais terminé, il y a un début et il n'y a jamais de fin. Et jamais nous n'ouvrirons les travaux, comme le rappelait Gilbert Avergel, à la télévision ou à d'autres personnes pour assister à des travaux publics. Ça n'aurait aucun sens, aucun sens.
C'est un refus aussi, j'imagine, du spectaculaire et de l'immédiateté.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pas d'exhibitionnisme, mais de la transparence.
Lionel ? Oui.
C'est... Voilà, alors je suis le profane ici, donc je loin de moi l'idée de... Hein, mais c'est effectivement, là, dans ce que j'ai moi étudié pour... à gauche à droite pour les livres et puis pour mon intérêt personnel, c'est l'essence même de la démarche initiatique qui par essence ne peut pas être immédiate. Si l'on compare simplement à l'expérience du quotidien, je pense que globalement, en tout cas faut l'espérer, quand au fur et à mesure qu'on prend de l'âge et au fur et à mesure, on apprend des choses sur l'existence et l'on se... ou du moins, espérons-le, on se bonifie avec le temps. Et il y a certaines expériences, parfois malheureuses, dont on se dit... parfois qu'il a fallu passer par là pour apprendre un certain nombre de choses sur la vie, sur l'existence, sur soi, sur ce que l'on cherche à devenir. Une philosophie initiatique fonctionne sur cette base-là et par essence, elle est fondée sur une forme de transformation. Pas une transformation nécessairement immanente ou transcendante, mais une forme de transformation sur soi, sur l'élargissement de sa perception du réel et sur une meilleure définition, qui est évidemment toujours transitoire, mais sur une meilleure définition de, de sa nature, de ses désirs, de ses aspirations et de ce que l'on cherche créer autour de soi. Ce qui nous ramène d'ailleurs à la démarche de l'écriture de fiction un peu.
Justement, je vais rebondir sur cette remarque. Est-ce que justement la rencontre que vous avez eue, une façon de débattre différente, un partage différent, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous allez, d'une façon, non pas dévoiler, il n'y a rien à dévoiler, on l'a bien compris, mais réintégrer dans votre fiction? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne à réfléchir et vous donne envie d'écrire quelque chose, des choses?
C'est quelque chose qui m'intéressait déjà beaucoup à l'origine. Je m'intéresse énormément de façon personnelle aux traditions spirituelles ésotériques du monde entier, et encore plus, à la limite, à l'usage que l'humanité en fait et ce que ça lui renvoie et en quoi ça la change. Plus dans le processus du travail en soi sur le symbole que sur le symbole en lui-même. Donc c'était des choses qui m'intéressaient déjà. J'avais assisté notamment, et c'était pour ça que j'étais d'autant plus honoré et ravi d'aller parler au temple, que j'étais déjà sensibilisé au fait que la maçonnerie a été un énorme... J'étais allé à un colloque universitaire à Strasbourg il y a quelques années sur la ville comme vecteur de connaissance et comme vecteur d'initiation au 18, 19e, etc. Et la maçonnerie figurait évidemment en première place puisque c'est là que les connaissances s'échangent et se propagent. Donc la maçonnerie est un vecteur premier et profond d'échange de connaissances. Sur la méthode en elle-même, moi j'ai tendance à regarder le monde et à refaire ma cuisine. Donc j'aurais tendance à ne pas trop aller m'inspirer de ce qui existe dans ces choses-là, parce que j'ai toujours peur de... Pourquoi j'écris de la fantasy, de la science-fiction? Quelque part parce que je traite souvent de thèmes parfois graves, parfois difficiles. Dans la fantasy, je parle pas mal de guerre. Dans Léviathan, je parle d'initiation. Et je me considère, comme je disais, comme un raconteur d'histoire avant toute chose et pas comme un académiste, comme un académicien, pardon. Donc j'aurais trop peur de ne pas traiter avec respect et à fond les thèmes dont je parle. Donc j'utilise le biais de la fiction pour traiter des thèmes qui m'intéressent en recréant mon monde finalement. Et là, je sais que, tout en faisant des recherches bien entendu, hein, je ne vais pas aller raconter n'importe quoi, il faut qu'il y ait une cohérence dans la fiction, absolument, mais je préfère éviter... Pourquoi je limite finalement les références au monde réel? C'est parce que j'ai trop de respect pour les gens qui vivent le réel et j'aurais trop peur justement de leur manquer de respect.
Gilbert Avergel, petite précision justement sur ça, qu'est-ce que vous apporte la rencontre avec ces écrivains profanes qui s'intéressent à ces questions, à cette tradition, à cet ésotérisme et aussi à la maçonnerie?
Mais déjà, ça me rassure. Lorsque nous nous engageons en maçonnerie et lorsque nous nous confrontons justement à sa dimension ésotérique, il se peut que, avec l'habitude, nous soyons prisonniers d'une interprétation univoque et forcément simplifiée. Revivre plusieurs fois le même rituel, la même mise en scène, ça peut être enfermant et ça peut devenir quelque chose de tout à fait mortifère. Et cette confrontation avec l'autre imaginaire, enfin, cette autre fiction, redonne du sens à la manière dont nous le vivons nous-mêmes. Moi, je ne vis pas le mythe d'Hiram aujourd'hui comme je le vivais il y a 15-20 ans. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, effectivement, il y a eu des cérémonies d'initiation. Mais entre-temps aussi, je me suis intéressé à la façon dont les autres le voyaient, dont les autres imaginaires autres que maçonniques fonctionnaient. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est-à-dire qu'autrement, ce serait érigé une forme d'imaginaire en dogme, ce qui n'a aucun sens. Il faut que la poésie reste, il faut que la créativité, il faut que le doute, il faut que la question reste. Et je dirais que c'est cette confrontation-là qui est féconde en la matière.
Jacques Orifice, donc présidez les imaginales maçonniques et ésotériques. Vous avez, j'imagine, mais on en parlera après cette édition, plein de projets, et nous aussi. D'autres projets nous seront sans doute apportés, donc c'est aussi un exemple, c'est de dire les imaginales sont ouvertes et attendent que des groupes, des gens, des institutions, des structures, des individus lui proposent des idées. Est-ce que c'est aussi votre vision des choses, c'est-à-dire que vous n'êtes pas finalement enfermé, mais vous venez de faire la démonstration que tout en ayant, et vous l'avez très bien précisé, Gilbert Haberschel, tout en gardant votre spécificité, vos traditions, vos choix, vos rythmes, vous insistez pas mal, je trouve, là-dessus, est-ce que finalement, Jacques Orifice, c'est pas une continuité, tout en vous attachant à ce que l'imaginaire féconde encore votre propre imaginaire, est-ce que finalement, c'est pas ça votre projet, le projet des imaginales maçonniques et ésotériques?
Oui, le projet des imaginales maçonniques et ésotériques, c'est le projet, comme le disait Gilbert tout à l'heure, c'est un projet essentiellement culturel. Or, qu'est-ce que la culture ? C'est ce qui cherche à améliorer l'homme, parce qu'on croit essentiellement en l'idée de progrès. Je dirais presque qu'on a un projet éducatif, on cherche à tirer le meilleur de l'homme. Et le meilleur existe en l'homme, même si hier, quand on a parlé de la face obscure de l'humanité, on a voulu montrer que le pire pouvait exister. Quand Gilbert a parlé d'expression et répression de l'imaginaire hier à propos de la mort de Bernard Maris, il a voulu exprimer ce qu'il pouvait y avoir d'impensable de pouvoir exercer une coercition terrible sur l'homme dans sa liberté, dans sa libération. C'est le fondement même de la maçonnerie. Or, plus on créera ce lien, plus on amplifiera ce rapport entre la maçonnerie, le sensible, l'imaginaire et les imaginales, ce que font les littératures. La littérature, c'est quelque chose d'absolument fantastique et merveilleux, indépendamment de la fantaisie. Je parle de la littérature globalement. Et c'est là qu'il y a des points de rencontre. Il n'y a pas de grands hommes en maçonnerie, il n'y a plus de grands hommes en maçonnerie. Mais par contre, tous les hommes qui y entrent et qui y restent et qui travaillent, et les femmes bien entendu, c'est au terme générique l'emploi générique du terme, deviennent meilleurs et plus éclairés. Puis ils cherchent à apporter une petite lumière à l'extérieur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la maçonnerie, contrairement à la littérature, quand vous lisez un livre, vous êtes seul. Quand vous êtes en maçonnerie, vous êtes avec les autres. Et la maçonnerie, c'est la rencontre. Et de la rencontre, créer le lien.
Voilà une belle conclusion. En tout cas, merci à Gilbert Haberschel, merci Jacques Orifice, Lionel Davoust, et puis on se retrouve évidemment l'année prochaine. Merci à tous.